Nous nous rendîmes donc chez Polémarque. Et là, nous trouvâmes Lysias et Euthydème, ses frères, et avec eux, Thrasymaque de Chalcédoine, Charmantide de Paénée, et Clitophon, fils d'Aristonume. À l'intérieur, il y avait aussi le père de Polémarque, Céphale. Je le trouvais beaucoup vieilli, car il y avait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il était assis sur un siège garni d'un coussin et portait une couronne sur la tête, parce qu'il venait de faire un sacrifice dans la cour. Nous nous assîmes près de lui, car il y avait là un certain nombre de sièges rangés en cercle. Aussitôt qu'il m'aperçut, Céphale me salua et me dit « Tu ne descends guère souvent nous voir au Pirée, Socrate. C'est un tort de ta part. Si moi j'avais encore assez de force pour faire d'un pied léger le trajet de la ville, tu n'aurais pas besoin de venir ici. C'est nous qui irions chez toi. Mais maintenant, c'est à toi de venir ici plus souvent. Je te dirai en effet que, si pour moi les plaisirs des sens sont fanés, je sens croître d'autant le goût et le plaisir de la conversation. Fais-moi donc la grâce, sans renoncer à la compagnie de ces jeunes gens, de venir ici et de fréquenter chez nous, comme chez d'intimes amis. » Et moi, Céphale, répondis-je, j'aime à converser avec les gens d'un grand âge. Il me semble qu'il faut apprendre d'eux, puisqu'ils nous ont devancés sur une route que nous aurons peut-être aussi à parcourir. De quelle nature est cette route? Si elle est rude et pénible, ou facile et commode? Aussi, j'aurais plaisir à connaître ton sentiment sur ce que les poètes appellent le seuil de la vieillesse, puisque tu es arrivé à ce moment de la vie. Si c'est un passage difficile de l'existence, ou si tu as autre chose à en dire. » Oui, par Zeus, je veux bien, Socrate, te dire mon sentiment sur ce point. Souvent, en effet, nous nous réunissons ensemble entre vieillards, à peu près du même âge, justifiant ainsi le vieux proverbe. Or, la plupart d'entre nous se lamentent dans ces réunions. Ils regrettent les plaisirs de la jeunesse. Ils se rappellent les délices de l'amour, du vin, de la bonne chère et d'autres amusements du même genre. Et ils se chagrinent comme s'ils avaient perdu des biens considérables. Il faisait bon vivre alors, à présent ce n'est même plus vivre. Quelques-uns se plaignent aussi des outrages auxquels leur grand âge les expose de la part de leurs proches. Et là-dessus, ils rebattent tous les maux dont la vieillesse est pour eux la cause. Mon avis à moi, Socrate, c'est que ces vieillards ne touchent pas la véritable cause. Car, si la vieillesse était la vraie cause, elle aurait eu le même effet sur moi et sur tous ceux qui sont arrivés à cet âge. Or, j'ai rencontré au contraire des vieillards animés de sentiments bien différents, entre autres, le poète Sophocle. J'étais un jour près de lui, quand on lui demanda: où en es-tu, Sophocle, à l'égard de l'amour? Es-tu encore capable d'entreprendre une femme? Tais-toi, l'ami, répondit Sophocle. Je suis enchanté d'être échappé de l'amour, comme si j'étais échappé des mains d'un maître enragé et sauvage. Sa réponse me parut belle, alors, et aujourd'hui encore, elle ne me paraît pas moins belle. Il est certain, en effet, qu'à l'égard de ces troubles des sens, la vieillesse assure la paix et la franchise complète. Quand les passions ont perdu leur violence et se sont relâchées, c'est à la lettre que le mot de Sophocle se réalise. On est délivré d'une foule de tyrans forcenés. Quant à ces regrets des vieillards et à leurs chagrins domestiques, il n'y a qu'une sorte de cause, et ce n'est pas la vieillesse, Socrate, mais le caractère des hommes. S'ils sont sages et d'humeur facile, la vieillesse alors est peu pénible. Sinon, Socrate, ce n'est pas seulement la vieillesse, c'est encore la jeunesse qui est fâcheuse, avec un caractère difficile. Et moi, émerveillé de sa réponse et désireux de l'entendre encore, je le poussai à continuer en lui disant « Je m'imagine, Céphale, que, quand tu parles de la sorte, la majorité de tes auditeurs ne t'approuve pas. Ils croient plutôt que, si tu supportes facilement la vieillesse, ce n'est point grâce à ton caractère, mais à ta grosse fortune. Car les riches ont, dit-on, bien des consolations. Tu dis vrai, répondit-il. Ils ne m'approuvent pas. Et ils ont un peu raison, mais pas autant qu'ils le croient. La vérité se trouve dans la réponse de Thémistocle à l'homme de Sériphos. Celui-ci l'injuriait en lui disant que ce n'était pas à son mérite, mais à sa patrie qu'il devait sa réputation. Il est vrai, répliqua-t-il, que si j'étais de Sériphos, je ne serais pas célèbre. Mais toi non plus, si tu étais d'Athènes. Le mot s'applique bien aux gens peu fortunés qui trouvent la vieillesse pénible. L'homme raisonnable ne saurait supporter la vieillesse avec une aisance parfaite s'il est dans la pauvreté. Mais l'homme déraisonnable aura beau être riche, la richesse n'adoucira pas son humeur. Dis-moi, Céphale, repris-je, le gros de ta fortune, te vient-il d'un héritage de famille ou l'as-tu beaucoup augmenté toi-même ? Si je l'ai augmenté, Socrate, répliqua-t-il, dans cette question de fortune, j'ai tenu le milieu entre mon grand-père et mon père. Mon grand-père, dont je porte le nom, hérita d'une fortune à peu près égale à celle que je possède actuellement, et il l'accrut de plusieurs fois autant. Mais Lysanias, mon père, la ramena au-dessous de ce qu'elle est à présent. Pour moi, il me suffit de laisser à mes enfants que voici une fortune, non pas moindre, mais un peu supérieure à celle que j'ai reçue en héritage. Si je t'ai fait cette question, dis-je, c'est que tu m'as semblé médiocrement attaché à la richesse. c'est généralement le cas de ceux qui ne l'ont pas acquise par eux-mêmes. Ceux qui la doivent à leur industrie y sont deux fois plus attachés que les autres. De même que les poètes aiment leurs vers et les pères leurs enfants, ainsi les hommes d'affaires s'attachent à leur fortune, parce qu'elle est leur ouvrage. Ils s'y attachent encore, comme les autres hommes, pour l'utilité qu'ils en retirent. Aussi leur compagnie est-elle désagréable, parce qu'ils ne veulent parler que de leur richesse. « C'est vrai, dit-il. » « N'en doute pas, repris-je, mais j'ai encore une question à te faire. Quel est le plus grand avantage que tu crois avoir retiré de la possession d'une grosse fortune ?»« C'est, dit-il, un avantage qu'il me serait sans doute impossible de faire apprécier à beaucoup de gens. Voici en quoi il consiste, Socrate, ajouta-t-il. Quand un homme croit sentir les approches de la mort, il lui vient des craintes et des inquiétudes sur des choses qui auparavant le laissaient indifférent. Et les récits qu'on fait de l'Hadès et du châtiment dont il faut payer là-bas les injustices commises ici, ces récits dont il se moquait auparavant, porte maintenant le trouble dans son âme. Il craint qu'il ne soit véritable, et lui-même, soit parce qu'il est affaibli par la vieillesse, soit aussi parce qu'il est à présent plus près de l'autre monde, il les considère avec plus d'attention. En tout cas, son âme se remplit de défiance et de frayeur. Dès lors, il repasse et il examine les injustices qu'il a pu commettre. S'il trouve dans sa conduite beaucoup d'iniquité, il se réveille souvent de son sommeil, comme les enfants. Il a peur et vit dans une affreuse attente. Si au contraire il n'a aucune faute à se reprocher, il a toujours auprès de lui une douce espérance, bienfaisante nourrice de sa vieillesse, comme parle Pindare. Car ce poète a bien dit joliment, Socrate, que lorsqu'un homme a mené une vie juste et sainte, la douce espérance l'accompagne, lui réchauffe le cœur et nourrit sa vieillesse, l'espérance qui gouverne souverainement l'esprit flottant des mortels. Ce sont là des paroles admirables. C'est en pensant à cela que je tiens la possession des richesses infiniment précieuses, non pas pour le premier venu, mais pour l'homme sensé. Ne pas tromper ni mentir, même involontairement, ne rien devoir, ni sacrifice à un dieu, ni argent à un homme, et en conséquence s'en aller sans crainte dans l'autre monde. Voilà un avantage auquel la possession des richesses contribue grandement. Elle en a bien d'autres encore, mais, tout bien pesé, je soutiens, Socrate, que c'est bien là, aux yeux de l'homme sensé, le principal bienfait de la richesse. « Tu parles d'or, Céphale, répliquai-je. Mais cette vertu même, la justice, la définirons-nous simplement comme toi, le fait de dire la vérité et de rendre à chacun ce qu'on en a reçu? Et ces deux choses même ne sont-elles pas au contraire tantôt justes, tantôt injustes? Par exemple, supposons qu'un homme ait reçu d'un ami, en son bon sens, des armes, et que cet ami, redevenu fou, les redemande. Tout le monde conviendra qu'il ne faut pas rendre un tel dépôt, que celui qui le rendrait ne ferait pas acte de justice, non plus que celui qui voudrait dire toute la vérité à un homme en cet état. Tu as raison, dit-il. Ce n'est donc pas définir la justice que de la faire consister à dire la vérité et à rendre ce qu'on a reçu. C'est la bien définir, au contraire, dit Polémarque, prenant la parole. S'il en faut croire Simonide. Pour moi, dit Céphale, je vous abandonne l'entretien. Il faut que je m'occupe à présent de mon sacrifice. Alors, dis-je, Polémarque est ton héritier. Sans doute, répliqua-t-il en riant. Et se disant, il s'en allait à son sacrifice.